Chapitre 2. En entrant dans l'immense salle dont les lames neuves du parquet, les cristaux étincelaient, André Poitou, ébloui, s'arrêta un instant. Sa silhouette se répétait à l'infini dans les glaces. Une foule d'invités allait et venait. Un murmure, qui parut aux commerçants toujours grandissant, vibrait dans l'air. L'hôtel Gallia venait d'être achevé. Aussi tout était-il prévu dans cette sorte de galerie réservée au banquet pour que le service et le confort ne laissassent rien à désirer. Aucune porte n'était condamnée. À cause de la hauteur du plafond, l'hôtel n'avait pas de premier étage. À partir du deuxième seulement se trouvaient les chambres. On sentait que, durant plusieurs années, tout demeurerait neuf, confortable et pratique. Plus tard, peut-être, le monde fuyant l'espace, la vaste galerie serait divisée en petits salons particuliers, les boiseries, aujourd'hui peintes de couleurs fraîches, couvertes de lourdes tentures. À l'extrémité de la salle, dans une sorte de fumoir serre, des hommes buvaient debout et parlaient. On entendait le bruit, un peu trop criard, des monte-charges qui descendaient jusqu'aux cuisines aménagées sous le sous-sol, celui-ci ayant été réservé à une académie de billard, aux vestiaires et aux cabines téléphoniques. Ce système de monte-charges était une des particularités de l'hôtel Gallia. Comme les chambres étaient superposées les unes exactement au-dessus des autres, le même monte-charge, dans la cage duquel on entendait à la fois des rires, des conversations, des scènes de jalousie, des pleurs, des commandes de garçons, en desservait autant qu'il y avait d'étages. Dans chaque chambre, il suffisait de sonner pour qu'une minute après, une ampoule rose signalât que, dans l'espèce de meuble gramophone qui masquait ce monte-charge, se trouvait le petit-déjeuner commandé. Le commerçant fit quelques pas. Les invités l'avaient remarqué, mais personne ne bougea, ni ne s'interrompit de parler. Il en est presque toujours ainsi lorsque l'homme attendu paraît. Bien qu'il ait été vu par tout le monde, le murmure des voix continue durant une seconde comme si rien n'était. Les convives étaient, les uns disséminés par groupes, les autres assis à deux ou trois sur le même fauteuil. D'autres encore lisaient le menu et cherchaient leur place. Des garçons s'empressaient de mettre la dernière main au couvert. La longue table était parsemée de fleurs et de fruits. Un calicot, comme on en voit les jours de vente réclame, fixé sur la longueur d'une paroi, annonçait que la direction du Gallia s'était assurée, pour les fêtes du jour de l'an, le concours d'un jazz, ainsi que celui du violoniste Carré, premier prix du Conservatoire de Paris. Par les portes vitrées donnant sur le hall, on apercevait les habitants de l'hôtel que la curiosité amenait presque jusqu'au seuil de la galerie et qui se gardaient de faire un pas de plus de peur de se trouver dans un endroit défendu. Cette soirée était peut-être la plus belle qu'André Poitou eût connue. Elle rendait plus tangible sa réussite. Sur la fin de sa vie, c'était un recommencement tellement imprévu qu'il semblait aux commerçants que chaque jour qui allait suivre serait comme avantageux. Il dissimula son émotion sous un air de satisfaction et s'avança franchement. Un petit vieillard, vêtu pour la circonstance d'une jaquette bordée de soie noire, vint tout de suite à sa rencontre. Il voulait être le premier à le complimenter pour que le commerçant en gardât plus nettement le souvenir. Par cet échange de paroles, qui, parce qu'elles seraient les premières, semblerait encore appartenir à la vie quotidienne, il créerait une sorte d'entente tacite qui durerait autant que le repas et qu'il se proposait de ranimer au moment du départ. « Te voilà enfin, mon cher Poitou, » dit-il. « C'est pour toi ce décor grandiose. C'est pour toi que nous sommes tous réunis ici. » Comme tu dois être heureux. Ne me parle pas, Lorieux, fit le commerçant. Je suis trop ému en cet instant pour te répondre comme tu le mérites. Ce Lorieux était le docteur auprès de qui, depuis ses débuts, André Poitou se rendait chaque fois que sa santé laissait à désirer. 30 ans durant, les deux hommes n'avaient eu que de vagues relations. Cela n'avait été que dernièrement qu'André Poitou, obéissant aux besoins subis de se lier, s'était mise à fréquenter le vieillard. Celui-ci, devant l'importante situation de son client, fit alors taire l'animosité que la froideur et le dédain du commerçant avaient provoquée en lui. Du jour où André Poitou lui avait consenti son amitié, il avait compris qu'il était de son intérêt de l'accepter sans faire la moindre allusion au passé. Aussi, pour justifier cette acceptation rapide, affectait-il d'avoir, lui aussi, un caractère bizarre et simulait-il avec bonheur un goût de rajeunissement et un besoin de rompre avec une longue solitude, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de confier à ses proches que Poitou lui faisait l'effet d'une coquette en retraite. En retraite était une de ses expressions favorites. Quand il voulait se moquer d'un homme d'un certain âge, il se servait toujours de ces mots. C'était peut-être que, plus très jeune lui aussi, il était mal à l'aise de traiter quelqu'un de vieux, alors qu'en retraite ne l'atteignait pas, puisque, malgré ses 70 ans sonnés, il exerçait toujours. Monsieur Poitou pensait donc que le docteur était son plus grand ami. Il avait pour lui des délicatesses de jeune homme. De peur de manquer son anniversaire, il décollait le bas des feuilles de son calendrier et, sur le 17 janvier, il faisait une énorme croix. S'il s'absentait, il ne manquait pas de lui envoyer un télégramme pour lui annoncer qu'il était bien arrivé, ce dont Lorieux se moquait complètement. Pourtant, malgré son indifférence, ce dernier redoutait toujours quelque anicroche. Il avait de nombreuses relations dont il avait eu l'existence à son ami. Aussi, quand les deux hommes sortaient ensemble, Lorieux tremblait-il toujours de s'entendre interpeller à peu près en ces termes. « Hé, Lorieux, où vas-tu comme cela ?» Ce qui eût détruit d'un seul coup ce qu'il avait patiemment laissé entendre à André Poitou. D'ailleurs, ce que justement il craignait était arrivé dernièrement. Comme le commerçant lui avait rendu visite, un certain Jacques Soula était entré dans le cabinet du docteur. Force avait été à Lorieux de présenter l'un à l'autre ses deux hôtes. André Poitou, comme il fallait s'y attendre, avait été légèrement froissé, mais d'autre part, tellement content d'agrandir le cercle de ses relations qu'il n'en avait pas gardé rancune à son ami. Après son départ, Lorieux s'était expliqué auprès de Jacques Soula. C'est un névrosé, tu comprends? Présente-le à ta femme, invite-le à dîner un soir, il sera heureux comme tout. Pour ce que ça coûte, autant être bien avec lui. À partir de ce jour, les trois hommes devinrent inséparables. Mais il y eut toujours quelques nuances dans leurs relations respectives. C'est ainsi que M. Poitou, lorsqu'il avait besoin d'un renseignement, s'adressait au docteur. Malgré tout, il était un peu jaloux de Soula, mais il n'osait montrer ses sentiments. Celui-ci, qui fréquentait Lorieux depuis plus de 20 ans, admettait très bien l'immixtion du commerçant dans l'amitié qu'il avait pour Lorieux. Il avait compris, une fois pour toutes, qu'elle ne serait jamais assez forte pour supplanter la sienne, et, par respect pour la situation importante du commerçant, il se surveillait de manière à ne jamais laisser percer une pointe de jalousie. Il agissait même devant André Poitou, assez cavalièrement à l'égard de Lorieux, le quittant soit brusquement, soit avec indifférence. Si le hasard faisait que le docteur et lui eussent projeté quelque chose, et que justement le commerçant proposât à Lorieux de passer l'après-midi avec lui, Jacques Soula s'effaçait immédiatement en disant « mais si, allez ensemble, j'avais complètement oublié un rendez-vous important. » De toute façon, je n'aurais pas pu rester plus d'une demi-heure. » Cette façon de faire l'avait tout de même rendu sympathique à André Poitou, qui ne s'apercevait pas qu'il y avait, derrière cette attitude, une entente entre les deux hommes. Et lorsque Lorieux, entre ses amis qui voulaient céder chacun leur place, affectait de tenir également à la compagnie de l'un et de l'autre, le commerçant ne discernait pas qu'au fond, tous deux eussent été contents de se débarrasser de celui qu'ils appelaient entre eux le crampon. Après avoir échangé quelques paroles avec le docteur, sans penser à ce qu'il disait, l'esprit uniquement tendu vers la foule qui l'entourait, tout en s'appliquant par politesse à ne pas quitter Lorieux des yeux, ce qui donnait à son regard quelque chose d'étrange, de faux, André Poitou fit cordialement « Alors, je te quitte une minute. À tout à l'heure. » « Tu me laisses déjà ? repartit Lorieux à la façon de ses amoureux qui, après avoir donné à leur maîtresse la permission de sortir, leur disent, au moment de se séparer, « Tu es bien pressé !» André Poitou venait à peine de faire quelques pas dans la salle qu'un groupe, composé de 5 ou 6 personnes, l'entoura. Parmi elles se trouvaient justement Jacques Soula et sa femme, Marthe, à qui, visiblement, la leçon avait été faite. Elle suivait son mari, à peine faisait-il un écart, comme dans une foule où elle eut craint de le perdre, et cela tout en regardant derrière elle. « Grand soir, fit Jacques Soula, nous sommes tous de cœur avec vous. » Lorsqu'un homme est l'objet de la considération générale, la susceptibilité de chacun s'accroît. Son serrement de main habituel ne suffit plus. Quant à l'accolade, elle ne peut être que condescendante. André Poitou le sentait. Aussi cherchait-il désespérément un milieu, ce qui amena Jacques Soula à penser que son ami était débordé par l'ampleur du banquet. Il en conçut une certaine satisfaction, car c'était non sans une envie secrète qu'il s'était rendu à l'hôtel Gallia. D'un naturel méchant, il employait le plus clair de son temps à mettre au net les défauts d'autrui, à les dégager du nuage qui les enveloppait, à les présenter aussi froidement qu'un objet tiré d'une collection, après les avoir réduits, déformés, sans tenir compte des qualités qui, vraisemblablement, les compensaient, ni des raisons qui les avaient fait naître ou pouvaient les excuser. Comme il arrivait vite au bout de la tâche qu'il s'imposait et que la rage lui venait de remarquer que ses constatations ne rendaient pas ses interlocuteurs différents, il tâchait de les vexer, non avec franchise, mais d'une manière cauteleuse qui lui permettait de se rétracter sans le paraître. « Grand soir mérité !» ajouta un homme d'une 40aine d'années dont le visage était encadré d'une barbe noire et dont la stature imposait le respect. C'était un grec établi en France depuis 1910 du nom d'Aristide Baladis. Pendant la guerre, il s'était engagé à la Légion étrangère et tout de suite avait été grièvement blessé. Il arborait à la boutonnière une Légion d'honneur à titre militaire. Dès son retour, il avait loué un vaste appartement où, aidé de quelques spécialistes, il confectionnait des chaussures sur mesure à des prix excessifs. Il portait un smoking d'une coupe nouvelle. On devinait en l'examinant que tout de son attitude dépendait du milieu où il se trouvait. Il semblait continuellement se plaire à laisser errer sur sa personne l'habitude qu'il avait des femmes élégantes. Ce soir-là, à l'hôtel, il affectait l'aisance d'un homme familier des réceptions et des dîners. De temps à autre, il quittait pourtant sa bonne humeur afin de jeter un coup d'œil froid sur les convives. Une princesse se fût égarée en ce lieu qu'on eût facilement imaginé Aristide Baladis, bombant le torse, se détachant de toutes ses forces de son entourage, se levant même et, avec des gestes subitement autres, conduisant galamment l'intruse au petit salon qu'elle cherchait. André Poitou le regarda avec un attendrissement qui couvrit ses yeux d'une sorte de buée. « Vous êtes venu aussi, comme c'est gentil !» Mais il ne pouvait en être autrement. « Merci, mon bon ami, merci !» Les deux hommes se serrèrent longuement la main. Et le plus étrange fut que, au cours de cette effusion, Aristide Baladis avait un air réellement protecteur à l'égard du commerçant dont la fortune était peut-être 100 fois plus importante que la sienne.